Podcast de l'Avent, une lecture balsacienne pour patienter jusqu'à Noël. Le bal de Sceaux, par Honoré de Balzac, Paris, décembre 1829. À Henri de Balzac, son frère Honoré. Extrait 24 sur 24.
L'impertinent ! S'écria-t-elle. Se venge-t-il assez cruellement ? 15 jours après, Maximilien Longueville partit avec sa sœur Clara pour les chaudes et poétiques contrées de la belle Italie, laissant Mademoiselle de Fontaine en proie aux plus violents regrets. Le jeune secrétaire d'ambassade épousa la querelle de son frère et sut tirer une vengeance éclatante des dédains d'Émilie en publiant les motifs de la rupture des deux amants. Il rendit avec usure à sa danseuse les sarcasmes qu'elle avait jadis lancés sur Maximilien et fit souvent sourire plus d'une excellence en peignant la belle ennemie des comptoirs, l'Amazone qui prêchait une croisade contre les banquiers, la jeune fille dont l'amour s'était évaporé devant un demi-tiers de mousseline. Le comte de Fontaine fut obligé d'user de son crédit pour faire obtenir à Auguste Longueville une mission en Russie afin de soustraire sa fille au ridicule que ce jeune et dangereux persécuteur versait sur elle à pleine main. Bientôt, le ministère, obligé de lever une conscription de pair pour soutenir les opinions aristocratiques qui chancelaient dans la noble chambre à la voix d'un illustre écrivain, nomma M. Guiraudin de Longueville, pair de France et vicomte. M. de Fontaine obtint aussi la pairie, récompense due autant à sa fidélité pendant les mauvais jours qu'à son nom qui manquait à la chambre héréditaire. Vers cette époque, Émilie, devenue majeure, fit sans doute de sérieuses réflexions sur la vie, car elle changea sensiblement de ton et de manière. Au lieu de s'exercer à dire des méchancetés à son oncle, elle lui apporta sa béquille avec une persévérance de tendresse qui faisait rire les plaisants. Elle lui offrit le bras, alla dans sa voiture et l'accompagna dans toutes ses promenades. Elle lui persuada même qu'elle aimait l'odeur de la pipe et lui lut sa chair quotidienne au milieu des bouffées de tabac que le malicieux marin lui envoyait à dessein. Elle étudia le piquet pour tenir tête au vieux comte. Enfin, cette jeune personne fantasque écouta sans s'impatienter les récits périodiques du combat de la belle poule, des manœuvres de la ville de Paris, de la première expédition de Monsieur de Suffrène ou de la bataille d'Aboukir. Quoique le vieux marin eût souvent dit qu'il connaissait trop sa longitude et sa latitude pour se laisser capturer par une jeune corvette, un beau matin, les salons de Paris apprirent le mariage de Mademoiselle de Fontaine et du comte de Kergarouët. La jeune comtesse donna des fêtes splendides pour s'étourdir, mais elle trouva sans doute le néant au fond de ce tourbillon. Le luxe cachait imparfaitement le vide et le malheur de son âme souffrante. La plupart du temps, malgré les éclats d'une gaieté feinte, sa belle figure exprimait une sourde mélancolie. Émilie prodigua d'ailleurs ses attentions à son vieux mari, qui souvent, en s'en allant dans son appartement le soir au bruit d'un joyeux orchestre, disait « Je ne me reconnais plus, devais-je donc attendre à 72 ans pour m'embarquer comme pilote sur la belle Émilie après 20 ans de galère conjugale ?» La conduite de la comtesse fut empreinte d'une telle sévérité que la critique la plus clairvoyante n'eut rien à y reprendre. Les observateurs pensèrent que le vice-amiral s'était réservé le droit de disposer de sa fortune pour enchaîner plus fortement sa femme. Supposition injurieuse et pour l'oncle et pour la nièce. L'attitude des deux époux fut d'ailleurs si savamment calculée que les jeunes gens les plus intéressés à deviner leur secret de ce ménage ne purent deviner si le vieux comte traitait sa femme en époux ou en père. On lui entendait dire souvent qu'il avait recueilli sa nièce comme une naufragée et que, jadis, il n'abusait jamais de l'hospitalité quand il lui arrivait de sauver un ennemi de la fureur des orages. Quoique la comtesse aspirât à régner sur Paris et qu'elle essayât de marcher de pair avec mesdames les duchesses de Maufrigneuse, de Chaulieu, les marquises d'Espard et d'Aiglemont, les comtesses Ferraud, de Montcornet, de Restaud, madame de Caen et mademoiselle des Touches, elle ne céda point à l'amour du jeune vicomte de Portenduère, qui fit d'elle son idole. 2 ans après son mariage, dans un des antiques salons du faubourg Saint-Germain, où l'on admirait son caractère digne des anciens temps, Émilie entendit annoncer Monsieur le Vicomte de Longueville. Et dans le coin du salon où elle faisait le piquet de l'évêque de Persépolis, son émotion ne put être remarquée de personne. En tournant la tête, elle avait vu entrer son ancien prétendu dans tout l'éclat de la jeunesse. La mort de son père et celle de son frère, tués par l'inclémence du climat de Pétersbourg,
avait posé sur la tête de Maximilien les plumes héréditaires du chapeau de la pairie. Sa fortune égalait ses connaissances et son mérite. La veille même, sa jeune et bouillante éloquence avait éclairé l'assemblée. En ce moment, il apparut à la triste comtesse, libre et parée de tous les avantages qu'elle demandait jadis à son type idéal. Toutes les mères chargées de filles à marier faisaient des coquettes avances à un jeune homme doué des vertus qu'on lui supposait en admirant sa grâce. Mais mieux que tout autre, Émilie savait que le vicomte de Longueville possédait cette fermeté de caractère dans laquelle les femmes voient un gage de bonheur. Elle jeta les yeux sur l'amiral qui, selon son expression familière, paraissait devoir tenir encore longtemps sur son bord et maudit les erreurs de son enfance. En ce moment, Monsieur de Persépolis lui dit avec sa grâce épiscopale
« Ma belle dame, vous avez écarté le roi de cœur, j'ai gagné. Mais ne regrettez pas votre argent, je le réserve pour mes petits séminaires. »
Ainsi s'achève le bal de Sceaux et les aventures amoureuses d'Émilie de Fontaine. Le podcast de l'Avent a été enregistré et créé par le musée Balzac. Passez de bonnes fêtes!